Jules Lemaître, En marge de la fontaine, La fontaine chez les voleurs. Vers minuit, Jean de la Fontaine sortait d'une maison de la rue Saint-Jacques où il avait soupé avec quelques amis. Il portait une lanterne car la nuit était sombre et la ville n'avait point encore de réverbère. Mais comme il passait sur le pont Notre-Dame pour regagner son logis, un coup de vent souffla le lumignon que Jean ne put rallumer, ayant oublié son briquet. Il vit alors un homme qui marchait devant lui, en tenant à la main une chandelle de résine, et dont une longue rapière relevait la cabale espagnole. La Fontaine se mit à le suivre pour profiter de l'éclairage. Mais au moment où ils arrivaient, l'un devant l'autre, au tournant du quai, l'homme tira de sa poche un éteignoir à cierge, avec quoi il éteignit son oribus, se jeta au collet de La Fontaine, lui demanda poliment, mais avec fermeté, la bourse ou la vie, pour se payer, disait-il, de la peine qu'il avait prise de le conduire. « Monsieur, lui dit Jean, je préférerais ne vous donner ni l'une ni l'autre, mais puisque vous me laissez du moins le choix, j'aime mieux vous donner ma bourse. » Il fouilla longuement dans ses chausses et n'y trouva rien. « Ah, oh, monsieur, reprit-il, cela est fâcheux, mais j'ai oublié ma bourse, ainsi que vous pouvez vous en rendre compte. Il ne me reste donc à vous offrir que ma vie, mais que ferez-vous de la vie d'un pauvre poète ?»« Ah, oh, monsieur est poète, dit le voleur d'un air d'intérêt. « Ou du moins, je m'y tâche, répondit Jean. Mais je me suis aperçu, en explorant mes chausses, que j'avais oublié la clé de mon logis, en même temps que ma bourse et mon briquet, si bien que me voilà forcé de passer la nuit à la Belle Étoile. Ce n'est qu'une façon de parler, car je ne vois non pas plus l'étoile au ciel que l'écu dans ma poche. À moins que je ne trouve quelques tavernes encore ouvertes à cette heure, et si l'on me veille bien faire crédit jusqu'à demain. Monsieur, dit le voleur, vous me paraissez civil et de bonne compagnie, et vous possédez en outre cette tranquillité d'âme qui est le propre du sage. C'est moi, si cela ne vous désoblige point, qui aurai l'honneur de vous offrir l'hospitalité dans ma modeste maison. Monsieur, dit La Fontaine, j'accepte avec reconnaissance. Le voleur alluma sa chandelle de résine. Les deux hommes purent s'examiner à loisir et semblèrent satisfaits l'un de l'autre. Le voleur, vêtu d'un pourpoint de satin noir, empruntait sans doute à quelque riche bourgeois, d'un haut de chose de drap du Barry et d'une roupie de serge, avait une face martiale, mais sans dureté, et où la moustache seule était terrible par l'exagération de ses crocs. Et Jean de La Fontaine plut tout de suite à son compagnon, par son nez débonnaire, son regard confiant et son costume négligé, qui était vraiment d'un poète ou d'un philosophe. Ils s'engagèrent dans la rue Saint-Denis et devisèrent chemin faisant. « Monsieur, dit le voleur, j'honore les poètes, et je suis poète moi-même à mes moments perdus. J'ai commencé mes humanités au collège de Navarre, et je serai peut-être, alors qu'il est régent de rhétorique, si des infortunes imméritées m'avait contraint de chercher une autre profession. Oh, celle que j'exerce, pas des mieux famées, mais j'en oublie du moins les loisirs qu'elle me laisse en les consacrant au culte des muses. Je feuillais d'une main diurne et nocturne les plus fameux de nos rimeurs, messieurs de Corneille, de l'Estoile, de la Serre, Hardy, Théophile, Saint-Amand, Boyer, Chevalier, Colin, Ménage et Tristan. J'étais au hasard de ma verve. J'écris les rondeaux, les acrostiches, les sonnets, les épithalames, ours, odes et madrigaux. Mais je cultive principalement le genre familier. Je fais des chansons pour les colporteurs, et c'est moi qui fournis le savoyard et le boiteux de tous les refrains nouveaux avec quoi ils ont triomphé dans les carrefours et dans les meilleurs cabarets. Oh, mais je crains d'abuser de la complaisance d'un confrère qui n'a pas eu tout d'abord à se louer de moi. Mais je ne saurais cependant renoncer à l'avantage d'être entendu par un juge aussi compétent que vous me paraissez être. Et si vous me permettiez de vous soumettre quelques fruits de mes veilles. Monsieur, dit La Fontaine, je vous écoute. Le voleur, avec des gestes qui faisaient destiner à sa chandelle de résine de grands paraffes lumineux, déclama une ode sur les victoires du roi, puis la dernière chanson qu'il avait composée pour le Savoyard, dans laquelle étaient célébrés les mérites du tabac, et où l'on voyait le poète préférer sa pipe à sa maîtresse. « Monsieur, dit La Fontaine, l'ode est sublime, mais la chanson me plaît davantage par sa simplicité et son tour populaire. « Monsieur, répondit le voleur, bon, je crois que vous en jugez comme il faut. Je suis d'ailleurs d'un si bon naturel que je pardonne à ceux qui ne m'admirent pas également tous mes ouvrages et qui font un choix entre les produits de ma veine. Mais vous-même, monsieur, ne me ferez-vous pas l'honneur, je ne dis point de soumettre à mon faible jugement, mais proposer à mon admiration quelques-unes de vos rimes ? Monsieur, dit La Fontaine, après l'obligeance de votre précessé en faire moi, je ne vous saurais refuser une faveur si menue. Je vous réciterai donc un morceau que j'achevais ce matin même et où j'ai essayé de mêler la tendresse avec le badinage, car tel est mon goût. Et il récita, à voix presque basse, un petit hymne à la volupté qui se terminait ainsi. Volupté, volupté, qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grèce. Épicure, sans doute, interrompit le voleur. Oui, vous l'avez dit, monsieur. Il continua. Ne me dédaigne pas, viens t'en loger chez moi. Tu n'y seras pas sans emploi. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Le voleur demeura un instant silencieux et comme frappé de stupeur. Ensuite, il fit claquer plusieurs fois sa langue, puis ôtant son chapeau et s'inclinant jusqu'au pavé. « Oh, monsieur, dit-il, ce sont là des vers, de vrais vers, de véritables vers, et tels que je me souviens pas d'en avoir entendu. » Ils paraissent éclos sans plus d'effort que les fleurs. Je connais pressentiment que je ne suis pas un écolier et que vous en êtes un maître. Croyez, monsieur, que je suis dorénavant tout à votre service. Mais ne pourriez-vous me dire le nom de l'homme merveilleux qui vient de me révéler en quelque sorte ce que c'est que la poésie ? Jean de La Fontaine, monsieur, pour vous servir à mon tour. Je ne pense pas que mon nom soit parvenu jusqu'à vous, car mes rimes n'ont point encore été imprimées. Et vous, monsieur, répugnerez-vous à me confier le nom de l'honorable Spadassin, qui se montre si bon appréciateur des présents des muses ? Monsieur, dit le voleur, je ne vous cacherai point qu'on m'appelle le capitaine Carré. Non que j'ai l'avantage d'être officier de sa majesté le roi, mais j'ai cependant mes troupes, ainsi que vous l'allez voir. » Les deux hommes, en effet, ayant atteint la porte Saint-Denis, puis tournèrent à droite, s'arrêtèrent devant une maison assez grande, mais d'apparence minable, bâtie sur le rempart. « C'est ici, » dit Cascaret. Ils entrèrent dans une grande salle, au plafond bas et enfumé, mal éclairé par quelques chandelles, où des hommes attablés buvaient dans des pots d'étain et pétulaient dans de longues pipes de Hollande. Tous se levèrent en voyant entrer Cascaret. Il leur présenta son compagnon en ces termes. « Monsieur est un ami, ayez pour lui des égards. » Puis il avisa une table restée libre et invita La Fontaine à s'y asseoir près de lui. Une grosse servante leur apporta une bouteille et deux gobelets. « Oh, vous pouvez parler devant monsieur, » dit Cascaret à ses hommes. Alors, à mesure qu'il les appelait « Baudrine, La Brèche, Le Bonnel, Langevin, Rousteau, Prudestock », ils vinrent l'un après l'autre, chapeau bas, lui rendre compte de leurs travaux de la soirée. Plusieurs lui remirent des bijoux de diverses sortes, colliers, anneaux, croix ou bracelets, et beaucoup d'or et d'argent monnayé, pourquoi il y avait des pièces fort légères. Mais le chef ne se mit pas en peine de chercher un trébuchet, sachant bien que ses commis, les ayant reçus sans les regarder, n'étaient pas obligés de les lui garantir trébuchantes. D'autres apportèrent des manteaux, des chapeaux, des pièces d'étoffe, des ustensiles de cuisine et divers objets d'intimité ou d'agrément que Cascaret fit mettre en bas dans un coin de la salle. « C'est bon, messieurs, » dit-il enfin. « On vous fera demain de distribution. Vous pouvez retourner voir. » Jean de La Fontaine avait considéré la scène avec une bienveillante curiosité. « Monsieur, » dit-il à Cascaret, « j'admire que vous ayez surordonné ainsi le désordre et faire régner parmi des gens à qui je ne ferai point tort en les supposant hors la loi, une discipline et une obéissance que l'on rencontre rarement, même dans la société régulière. « Bon, monsieur, » répondit Cascaret, « je ne vous assure aucune peine, parce que j'ai étudié et que je me pique d'aligner des rimes. J'ai, parmi ces braves gens, le renom d'un esprit hors de pair. » Et à cause de cela, ils m'obéissent volontiers. Ils reconnaissent à leur manière les deux empires des muses. Et pourtant, beaucoup sont plus habiles que moi. Je ne saurais vous dire l'infinie variété des stratagèmes qu'ils inventent. Celui-ci, qu'on appelle Boudry, et qui l'année dernière encore s'escrimait contre les ondes avec une épée de bois. Enfin, vous voulez dire qu'il ramait sur les galères du roi. Tel est en effet le sens de cette figure des rhétoriques. Donc Baudry est un des plus adroits de la compagnie. Dans les marchés, il contrefait le paysan. On le voit au palais, vêtu en procureur. Et parmi les grands, il paraît ajusté en gentilhomme. Et dans tous ces lieux, s'il trouve quelque chose qui lui convienne, il y pose la main aussitôt que l'a vue. Celui-là, la Brindestock, fournit ses compagnons de lames d'épée qui lui reviennent à bon marché. Car, entrant chez un fourbisseur avec un fourreau vide à son côté, il glisse dans ce fourreau une lame neuve pendant que le fourbisseur lui en fait voir d'autres. Et ce troisième, la Brèche, n'est pas moins ingénieux. Lorsqu'il a visité un logis en l'absence des habitants et qu'il a fait sa main, au lieu de fuir à toutes jambes, il chemine modestement pendant quelques minutes, puis il revient sur ses pas, et s'il voit des gens en quête de voleurs, il va doucement à leur rencontre, passe à côté d'eux et sauve ainsi son butin. Et ce quatrième, la boline, met quelquefois un cotillon par-dessus ses grègues, une écharpe sur sa tête et un masque sur son nez. Et ainsi déguisé, il attaque en plein jour le bourgeois dans la rue. Et les passants, qui les voient en contestation, croyant que c'est un mari et une femme qui ont ensemble quelques différends, ne se mêlent point de leurs affaires. Ou bien ils posent le soir, au coin d'une rue, deux mannequins habillés, et quand un bourgeois se présente, mais peut-être, monsieur, que je vous ennuie. Jean de La Fontaine s'était endormi. Il fut réveillé par un bruit de dégringolade le long d'un escalier de bois qu'on voyait dans un angle de la salle. C'était une troupe de femmes. Cantine, Parthénis, Amarante, Sylvie, Nanon, Ginette, Simonette et la Gibouleuse, qui descendaient de leur chambre et furent se mêler aux buveurs. Deux ou trois étaient assez jolis, mais tout était grossièrement fardé et vêtu de friperies, et plusieurs, sans doute à la suite de quelques rixes, s'étaient appliqués sur le visage des mouches aussi longues que des chenilles pour servir d'emplâtre à leurs égratignures. À leur entrée, une violente odeur de musc s'était répandue dans le cabaret. Cascaret, voyant La Fontaine réveillée, continua ses explications. « Ces dames sont les compagnes de ces messieurs et les aident à supporter une existence souvent pénible. Leur cœur est fidèle, encore que ces messieurs ne leur défendent point de faire part de leur charme pour des sommes modiques aux étrangers qui d'aventure les en prient. Elles rendent à notre communauté d'autres services. Elles entretiennent notre garde-robe et elles sont si habiles à déguiser les hardes dérobées aux bourgeois, soit en changeant les doublures et les boutons, soit en tournant le collet à l'envers, que ceux à qui ces hardes ont appartenu ne les pourraient jamais reconnaître quand elles leur passeraient devant les yeux. Ces bonnes filles habitent à l'étage au-dessus, sous la surveillance de Dame Angilberde, cette vénérable duègne. Vous voyez un stabé là-bas, avec ce gros homme roux et taciturne. Mais cet homme, dit La Fontaine, offre aux yeux une drogue trognonorifique à la fois et bonasse. Tel je vous représente les stupides géants. Et l'Estrigus, est-il aussi de votre troupe ? Oui, c'est un ami de la maison, un des aides du bureau de Paris, et qui nous fait souvent l'honneur de venir boire à notre compagnie. Il est utile dans notre métier d'entretenir des relations courtoises avec les exécuteurs de haute justice, car tels gens peuvent sauver un homme condamné à la potence en lui fourrant dans la gorge la douille d'un soufflet en guise de canule pour lui conserver la respiration. Ils peuvent encore mettre une tranche de lard sur l'épaule d'un patient avant d'y appliquer les armes du roi. Bien, toute chose à considérer, dit gravement Jean de La Fontaine, à qui les yeux papillotaient et qui ne savait pas très clairement en quel lieu il se trouvait, transporté. Oh, il faut, reprit Cascaret, dans une profession aussi exposée que la nôtre, penser à tout et tirer parti de tout, s'il se peut. Mais, monsieur, j'ai encore d'autres ressources que mon modeste talent de poète et que les lois condamnent sous le nom de larcin. C'est à moi que s'adressent les personnes qui ont à se venger de quelque ennemi. Nous tenons bureau de coups d'épée, de coups de nerf, de meux, de bastonnade ou de simples nasardes. Chaque article étant tarifé au plus juste. Du reste, nous n'allons jamais jusqu'au meurtre, car nous avons de l'humanité et de la prudence. Et Cascaret conclut avec une gracieuse liberté d'esprit. Eh bien, je vous ai développé, monsieur, tout mon petit gouvernement. Je l'administre avec une équité qui ferait honte à plus d'un juge du Châtelet et à plus d'un gouverneur de province. Nous vivons à la façon des bohèmes qui, sans acheter aucune chose, ont tout ce qui leur est nécessaire. Nous sommes dans Paris comme des loups dans une forêt. Pour ma part, toutefois, j'essaye de relever ma profession par l'espèce de vertu qu'elle peut encore comporter. Et en même temps, je me sens absous par les dangers qui sans cesse la menacent et qui ne sont point de ceux dont il faut rire. C'est le risque plus grand, c'est le risque de mort qui ennoblit le métier de larron et de flie, comme le métier de monarque. Au surplus, j'ai l'honneur d'être libertin. J'ai eu jadis quelques teintures de la doctrine de M. Cassandi, mais j'en ai poussé les conséquences plus loin que n'ose faire ce galant homme. Cette philosophie convient à mon état, et mon état se trouve justifié par cette philosophie. Ne le pensez-vous pas, monsieur ? Oui, monsieur, oui, tout en effet relatif, bégaya Jean de La Fontaine. Il approuvait tout. Une ivresse indulgente noyait ses yeux. Il souriait à Cantine et à Simonette, qui peu à peu s'étaient approchés et qui lui faisaient des agaceries. « Monsieur, dit Gascaret, si l'une de ces bonnes filles a l'heure de vous agréer, sachez que nous sommes fort au-dessus de la jalousie vulgaire. Monsieur, dit Jean d'une voix embattée, comment reconnaître ? Vous en avez, monsieur, un moyen bien simple. C'est de vous faire mon maître en poésie et de condescendre à corriger mes vers. » Jean de La Fontaine passa 3 journées charmantes dans la maison du capitaine. Il se levait tard, mangeait bien, buvait sec et s'amusait extrêmement des spectacles imprévus que lui donnait l'étrange compagnie. Pendant que les autres étaient dehors, il revoyait les vers de Cascaret, fit même pour lui la chanson de Dupont et la Guimbarde, et Dieu gara de mal Luxin et sa loyale amante. Et il conversait avec Damant Gilberde, à qui il trouvait beaucoup de sagesse, et le reste du temps, il dormait. L'après-midi du 4e jour, comme il était seul dans la salle, somnolent parmi les pots, un jeune robin entra, vêtu à la dernière mode, petit chapeau, vaste perruque blonde, petit pourpoint, grand collet et grande manche avec de larges canons et une abondante partie de bois qu'il faisait ressembler à un pigeon parfus. Le galant s'avança vers La Fontaine et lui dit « Le capitaine Cascaret, sans doute !» Jean inclina le menton, non pour tromper le visiteur, mais parce que, dans l'état d'agréable torpeur où il était, l'effort de parler ou seulement de remuer la tête en signe de dénégation, lui semblait trop rude. Alors le jeune Robin expliqua qu'il avait recours au bon office de l'illustre capitaine Cascaret pour se venger d'un seigneur qui lui avait soufflé sa maîtresse. Il s'agissait de bâtonner son rival, puis de le défigurer par quelque estafilade. On le rencontrerait tel jour, à telle heure, en tel lieu, et sortant de telle maison. D'ailleurs, ajouta le Robin, je serai là tout proche, Je vous le désignerai moi-même, à vous ou à vos lieutenants, et je paierai ce qu'il faudra. » Jean de La Fontaine, que ce discours avait à demi réveillé, répondit simplement: « Oh, monsieur, ce que vous demandez est fort vilain. Oh non, je n'en ferai rien, je vous assure. Le jeune bourgeois aurait eu bonne envie de se fâcher s'il avait réfléchi au danger d'une querelle avec un homme d'épée aussi réputé que le capitaine Cascaret. » Il se contint, allégua qu'il n'avait jamais été dans les académies, sans quoi il s'en fut remis à nul autre du soin de châtier son rival, qu'il entendait du reste lui faire appliquer que des coups fort légers, humiliants, et non point douloureux, qu'il adorait sa maîtresse, et qu'il était désespéré de l'avoir perdue, enfin, qu'il donnerait à Cascaret jusqu'à 50 écus, s'il consentait à se faire le vengeur d'une flamme injustement méprisée, et sur quoi il laissa échapper quelques larmes. « Mon enfant, dit Jean de La Fontaine, touché, je compatis à votre chagrin. Mais quand vous m'offririez les trésors de la Joconde, je refuserais de faire ce que vous attendez de moi. Mon naturel répugne à la violence, et principalement dans les choses de l'amour. S'il le faut, dit le jeune homme, j'irai jusqu'à 60 écus. Mais Jean continua sans l'entendre. Votre dessein, outre qu'il manque peu de bravoure et peu de loyauté, me paraît fort déraisonnable. J'ai quelquefois aimé sans être aimé moi-même. Alors je me réfugiais dans le vin, dans le sommeil ou dans un autre amour. Faites comme moi, mon cher enfant. On ne force point les cœurs. Je n'ai pas l'honneur de connaître votre maîtresse, mais je suis sûr quand vous préférerez en un autre amant cette charmante fille à céder à un mouvement irrésistible. Si elle aime vraiment votre rival, elle me paraît non seulement excusable, mais intéressante. Vous devez même la louer de sa sincérité. Que si elle l'a préféré, parce qu'il est homme de cour ou à cause de ses grands biens, dites-vous que ce n'est qu'une personne vaniteuse ou intéressée, et qu'elle ne vous méritait pas. Les raisons de nous consoler ne nous manquent jamais, si nous savons nous y prendre. Au surplus, vous êtes jeune, bien fait, galamment habillé. J'ai vu que vous aviez de l'esprit. Vous ne pouvez donc manquer de faire impression sur quelque autre belle personne qui vous dédommagera du mauvais procédé de votre infidèle. Et ne dites point que vous êtes à jamais incapable de vous prendre d'un nouvel objet. Les belles personnes, mon enfant, vous apportent toutes à peu près le même plaisir, qui est vif mais court. C'est notre imagination qui l'embellit, le rend plus fin et plus délicat, le diversifie, l'agrandit par l'attente et par le souvenir. Un garçon fait comme vous trouve peu de cruels, ou s'il en trouve, les consolatrices ne sont pas loin. Allez, allez, mon enfant, pas un mot, laissez-moi, j'ai beaucoup à travailler aujourd'hui. » Et il poussa affectueusement vers la porte le jeune bourgeois, stupéfait d'avoir rencontré chez un spadassin tant de douceur et de désintéressement, ravi d'ailleurs de ses dernières paroles, et pour le reste, à peu près consolé. Mais comme Jean de La Fontaine regagnait son banc, il heurta Cascaret, qui l'attendait les bras croisés. « Monsieur, dit froidement le capitaine, j'étais au haut de l'escalier et j'ai entendu toute votre conversation. Vous croyez mon ami et vous venez de me faire perdre 60 écus. »« Monsieur, répondit La Fontaine, Je vais les chercher, je vous les apporte. » Et il sortit après un grand salut. Il entra chez lui tout d'un trait, prit 60 écus dans sa cassette, qui par grand hasard était assez garnie, et se dirigea vers la maison de Cascaret. Mais il rencontra en chemin un ami qui le mena à souper, puis à la comédie. Le lendemain, il dormit tard, puis fut de rêver dans la forêt de Boulogne. Le jour suivant, il prit le coche pour Reims, où il passa 2 semaines chez son ami Maucroix, et ainsi de suite. Mais 3 mois environ après sa rencontre avec Cascaret, il entra chez le digne capitaine. « Monsieur, voici les 60 écus que je vous ai promis il y a quelques jours. » « Je ne vous attendais plus, monsieur, » fit sèchement Cascaret. « Avez-vous donc cru, monsieur, que je consentisse à vous faire tort ?» Alors Cascaret, cessant de feindre. « Et vous, avez-vous cru, monsieur, ou plutôt mon maître et mon ami, que je doutasse de votre parole ? Et croyez-vous, à présent, que j'ai le cœur assez bas pour accepter ces misérables écus ? Il est vrai que vous m'en frustrâtes, mais ce fut par un de ces mouvements débonnaires et gracieux dont je voudrais que l'élégance me fût quelquefois permise. Au reste, ne vous ai-je pas aussi frustré, en quelque manière, des vers divins que vous avez daignés, çà et là, semés dans mes humbles chansons ? J'aurais l'âme assez ravalée pour admettre dans mon escarcelle, avec cet argent, qui sans doute est le prix de vos doctes veilles. Non, non, de barre tous les diables. Mais, si vous voulez bien, nous l'allons manger et boire en compagnie de ces gens simples et de ces bonnes créatures. Toute la maison fit fête à Jean de La Fontaine. Il ne la quitta que le surlendemain, embrassé, caressé les uns de tous, et sur la promesse de revenir souvent. Il y revint quelquefois.